Deuxième partie. La dernière partie de la phrase fit s'évanouir les soupçons créés par la première. N'importe qui eût été en droit de regarder Mulvaney comme fou. Il était nu-pied et nu-tête, et sa chemise et ses pantalons tombaient en lambeaux. Mais il portait un vêtement somptueux, une gigantesque simarre qui retombait de son cou à ses talons, de soie rose pâle, où des mains depuis longtemps défuntes avaient abondamment brodé d'un point à l'aiguille fort avant les amours des dieux hindous. Les figures monstrueuses saillissaient et se cachaient à la clarté du feu à mesure que Burley drapait les plis autour de lui. Tandis que je tâchais de me rappeler où j'avais déjà vu cette étoffe, Osiris mania un moment celle-ci avec respect, puis il s'écria « Mais qu'est-ce que tu as donc fait, lui, palanquin ? Tu emportes la doublure ?»« Exact, dit l'Irlandais. » Et entre parenthèses, cette broderie m'arrache la peau. Voilà 4 jours que j'ai vécu dans cette somptueuse courte pointe. Mon fils, je commence à comprendre pourquoi il n'y a rien à tirer des négros. Sans doute mes bottes et avec mes pantalons, tels des bas à jour sur les jambes d'une fille au bal, je commençais à me sentir comme un négro, tout craintif. Allez, donne-moi une pipe et je te raconterai. » Il alluma une pipe, reprit ses deux amis dans son étreinte et fut secoué par une crise de fou rire. « Mulvaney, lui dit Orseris avec sévérité, c'est pas le moment de rire. Tu nous as donné à Jock et à moi plus d'ennuis que tu ne vaux. Tu as été en absence illégale et pour cela tu vas aller à la boîte. Et en plus, tu es revenu habillé d'une façon dégoûtante et fort peu convenable avec la doublure de ce sacré palanquin. Oh non, il n'y a pas de quoi rire. Et nous autres, nous pensions tout à temps, tout le temps, que tu étais mort. » Les gars, dit le coupable, encore un peu secoué, quand j'aurai fini mon histoire, tu pourras pleurer si tu veux. Notre petit Orthéris pourra me crever la paillasse en me trépignant. Finissez donc et écoutez. Mes exploits ont été stupéfiants. Ma chance a été la chance bienheureuse de l'armée britannique, et c'est pas peu dire. Je suis parti ivrogne et m'ivrognant dans le palanquin, et je suis redevenu Dieu rose. Est-ce que de vous est allé à trouver à Dursley une fois ma permission expirée? C'est lui qui a été cause de tout. Je le sais bien, murmura Lirold. Oh, demain j'irai lui casser le portrait. Non, non, tu n'iras pas. Dursley est un bijou d'homme. Quand Ferris m'est mis comme dans le palanquin, et tandis que mes 6 porteurs ahannaient le long de la route, me prit l'envie d'aller faire la nique à Dursley pour ce combat. Je leur commandais donc « Allez au talus !» Et là, comme j'étais fantastiquement plein, je passais ma tête par la fenêtre et échangeais les compliments avec Dursley. Je dois l'avoir injurié salement, car quand je suis comme ça, je ne sais pas me servir de ma langue. Je me rappelle tout juste lui avoir dit que sa bouche s'ouvrait de travers comme une gueule de raie, et c'était vrai, après que le Earl l'eût manipulé. Je me rappelle nettement qu'il n'en prit aucune offense, mais me donna à boire un grand coup de bière. Et ce fut cette bière-là qui me joua le tour, car je me refilais dans le palanquin en me marchant sur l'oreille droite avec le pied gauche, et puis je dormis comme un mort. Une fois, je me réveillai à moitié et, parbleu, Ça faisait dans ma tête un bruit effroyable. Ça grondait et battait, trépidait d'une façon toute nouvelle pour moi. Sainte Mère de Grâce, que je me dis, quel accordéon je dois avoir sur les épaules quand je me réveillerai. Et là-dessus, je me roule en boule pour me rendormir avant que ça ne me prenne. Le gars, ce bruit ne provenait pas de la boisson. C'était le roulement d'un train, suivi d'un silence impressionnant. Oui, il m'avait mis sur un train, mis moi, palanquin et tout, avec six noirs scélérats, d'entre ses coulisses qui étaient dans son âme confiance, sur la plateforme d'un truc à ballast, et nous roulions, et nous déboulions vers Bénarès. Heureux encore que je ne me sois pas réveillé, alors que je ne me sois pas montré aux coulisses. Et comme je vous le disais, je dormis la plus grande partie d'un jour et d'une nuit. Mais rappelez-vous que ce Dirichlet m'avait emballé pour Bénarès sur un de ses trains de matériel, à seule fin de me faire dépasser ma permission et que j'aille en prison. L'explication était éminemment rationnelle. Bénarès était au moins 10 heures de train de la garnison, et rien au monde n'eût pu sauver le valet d'être arrêté comme déserteur s'il s'y fût montré dans l'appareil de ses orgies. Dirichlet n'avait pas oublié de tirer vengeance de lui. Leroy, après être un peu reculé, se mit à envoyer de légers coups de poing sur les parties choisies du corps de Malvenet. Il avait l'esprit là-bas sur le talus, et ses coups ne présageaient rien de bon pour Dirichlet. Et Malvenet continua. Quand je fus tout à fait réveillé, le palanquin était déposé dans une rue, à ce que je soupçonnais car j'entendais des gens passer et causer. Mais je savais bien que j'étais loin de chez moi. Il y a dans notre garnison une drôle d'odeur, une odeur de terre sèche et de four à briques, avec des bouffées de litière de cavalerie. Et cet endroit-là, au contraire, il sentait les fleurs de soucis et la mauvaise eau. Et une fois, quelque chose de vivant devait renifler fortement avec son museau à une fente du verre. Ça y est, que je me dis, je suis dans un village et le buffle communal est en train d'examiner le palanquin. Mais dans tout cas, je n'avais pas envie de bouger. Quand on est dans des lieux étrangers, il n'y a qu'à rester tranquille et la chance bien connue de l'armée britannique vous fera passer au travers. C'est un axiome, et il est de moi. Puis un tas de diables chuchoteurs entourèrent le palanquin. « Portons-le, qui disait l'un. Mais qui nous paiera ?» que dit un autre. « Le ministre de la Maradie, comme de juste, que répond le premier. » « Ah là, que je me dis à moi-même, mais je suis une reine indépendante et j'ai un ministre pour payer mes dépenses. Si je reste tranquille encore longtemps, mais je vais devenir empereur. » Mais ce n'est pas dans un village que j'ai échoué. Et sans faire de bruit, je collai mon œil droit à une fissure des volets et je vis que toute la rue était bourrée de palanquins et de chevaux et d'une flopée de prêtres nus, tout poudrés de jaune et ornés de queues de tigre. Mais je peux bien te le dire, Anthéris, et à toi aussi, Reynold, de tous les palanquins, le nôtre était le plus magnifiquement impérial. Or, dans tout l'univers, un palanquin signifie une grande dame indigène, sauf quand par hasard, c'est un soldat de la reine qui la monte, des femmes et des prêtres, que je me dis. Pour cette fois, Terence, le fils de ton père est bien placé. On va voir la représentation. 6 diables noirs en mousseline rose enlevèrent le palanquin. Mais zut, voilà dix pas que le roulis de tangage me barbouillait le cœur. Alors nous fûmes coincés au beau milieu des palanquins. Il y en avait encore plus, près de 50. Et nous nous raclions et nous entrechoquions comme des caboteurs de pommes de terre de Queenstown dans une marée montante. J'entendis les femmes piauler et jacasser dans leurs palanquins. Mais le mien était le plus royal équipage. On y faisait place. Et parmi, parbleu, ces hommes en mousseline rose, mes porteurs braillaient. Place pour la Marani de Vincennes. Connaissez-vous cette dame, monsieur ? Oui, répondis-je, c'est une très estimable vieille reine des États de l'Inde centrale, et on dit qu'elle est obèse. Par quel martyr pouvait-elle être à Bénarès, sans que toute la ville ait reconnu son palanquin ? C'était la sempiternelle bêtise des négros. Après que les hommes de Dirley l'eurent planté là, ils se furent enfuis. Ils ont vu le palanquin gisant, solitaire et abandonné, et à cause de sa beauté, ils lui ont donné le meilleur nom qui leur soit venu à l'esprit. Et avec toute raison d'ailleurs, parce que nous savons, la vieille dame voyageait incognito, comme moi. Je suis heureuse d'apprendre qu'elle est obèse. Moi-même, je n'étais pas un poids léger, et mes hommes furent rudement aisés de me déposer sous une grosse voûte ornée à profusion des sculptures et bas-reliefs les plus convaincants que j'ai jamais vus. Parbleu, elle me fit rougir comme une maranie. « Le temple de la Pretty Devi !» murmurai-je au souvenir des horreurs monstrueuses de cette voûte sculptée à Bénarès. « Un sapristi de vie de diable !»« Oui, sauf votre respect, monsieur, il n'y avait rien de joli sous cette voûte, excepté moi. Elle était toute entière, dans la pénombre, et quand les coulisses partirent, on ferma derrière nous un énorme portail noir et une demi-compagnie de gros prêtres jaunes se mirent en devoir de haler les palanquins dans un lieu encore plus ténébreux, une vaste salle de prière pleine de piliers, de dieux, d'encens et d'un tas de trucs de ce genre. Le portail me dérangeait. Car la retraite étant coupée, je voyais qu'il me faudrait aller à l'avant pour m'en sortir. Et à ce propos, un bon prêtre fait un mauvais porteur de palanquin. Parbleu. Il faillit me faire rendre mes boyaux en traînant le palanquin jusqu'au temple. Or, quand nous fûmes dedans, la disposition des forces étaient celles-ci. La Maharani de Golensetulum, c'est-à-dire moi, se trouvait par une grâce de la Providence sur l'extrême flanc gauche, dans l'ombre d'un pilier sculpté en tête d'éléphant. Le restant des palanquins était disposé en un large demi-cercle, faisant face à une déesse très grande et très grosse, la plus étonnante dont je n'ai jamais rêvé. Sa tête se perdait dans des ténèbres supérieures, et ses pieds ressortaient à la lumière d'un petit feu de beurre fondu qu'un prêtre alimentait en puisant un plat de beurre. Alors, derrière nous, dans l'ombre, quelqu'un se mit à chanter et à jouer sur quelque chose. C'était une drôle de chanson qui fit se hérisser le poil de ma nuque. Mais les portes de tous les palanquins glissèrent sur leurs coulisses, et les femmes s'en échappèrent. Et je vis alors ce que je ne verrai jamais plus. C'était plus splendide que l'apothéose d'une féerie, car ces femmes étaient en rose, en bleu, en argent, en rouge, en vert d'herbe, avec des diamants, des émeraudes et de grands rubis rouges. Oh, je n'ai jamais vu le pareil, et je ne le verrai jamais plus. Étant donné que selon toute probabilité, vous contempliez alors les femmes et les filles de la plupart des rois de l'Inde, il y a des chances pour cela, répliquai-je, car la vérité m'apparaissant, que Dulmalet s'était fourvoyé à Bénarès dans une grande solennité religieuse de Rennes. Mais je ne le reverrai jamais, dit-il mélancoliquement. Ce spectacle n'est pas donné deux fois à un homme. J'avais honte d'y assister. Un prêtre ventru vit frapper à la porte. Je crus qu'il aurait l'audace de déranger la Maharani de Guam Setum. Aussi je me tins tranquille. « La vieille vache s'est endormie !» qu'il dit à un autre. « C'est son affaire !» que répondit ce dernier. « Il se passera du temps avant qu'elle ait un veau. » Avant même qu'il ne parlât, j'aurais pu comprendre que ce que toute femme demande au ciel dans l'Inde, et en Angleterre aussi d'ailleurs, ce sont des enfants. Et cela me rendit d'autant plus chagrin d'être là que, comme vous le savez, je n'ai moi-même pas d'enfants. On priait et les feux de beurre flambaient et l'ensemble mettait sur tout un voile bleu grâce auquel, au feu, les femmes avaient des mines enflammées et clignotantes. Elles embrassaient les genoux de la déesse. Elles l'imploraient et se prosternaient devant elle. Et cette musique qui ne finissait pas les rendait folles. Sainte Mère au ciel, comme elle pleurait, tandis que cette vieille déesse abaissait sur elle sa grimace tellement ironique. Alors, j'eus vite fait de me dégriser. Je réfléchissais aussi fort que les idées voulaient bien me venir à la cervelle, pensant au moyen de sortir de là. Et là, toutes sortes de bêtises en même temps. Les femmes alignées se balançaient, faisant cliqueter les ceintures de diamants, et les larmes leur coulaient entre les doigts, tandis que les lumières baissaient et s'obscurcissaient. Alors il partit du toit une clarté brillante comme un éclair qui me montra l'intérieur du palanquin et à l'extrémité où reposait mon pied, mon propre portrait tout craché, brodé sur la doublure. Tenez, ce bonhomme-ci. Il fouilla dans les plis de sa robe cimarose, passa la main sous l'un d'eux et fit saillir à la lueur du feu une image brodée d'un pied de long représentant un grand dieu Krishna, joueur de flûte, avec sa joue épaisse, son œil fixe et sa moustache d'un noir bleu. Le dieu offrait une ressemblance lointaine avec Mesalvet. La clarté avait disparu en un clin d'œil, mais ce fut d'abord que me vint tout mon plan. Je crois du reste que j'étais fou. Je fis glisser le volet extérieur et me faufilai dans l'ombre par derrière le pilier aux têtes d'éléphant, puis retroussai mes pantalons jusqu'aux genoux, me débarrassai de mes bottes et m'emparai en bloc de toute la doublure rose du palanquin. Et par bonheur, elle s'arracha comme la robe d'une femme quand on marche dessus au bal des sergents, et une bouteille vint avec. Je pris la bouteille, et la minute d'après, je sortis de l'ombre du pilier, la doublure rose drapée fort gracieusement autour de moi, tandis que la musique résonnait comme des cymbales et qu'un courant d'air glacé soufflait autour de mes jambes nues. Par cette main qui me le créa, j'étais Krishna, rossignolant sur sa flûte. Krishna, le dieu dont nous parle l'aumônier du régiment. Je devais offrir un charmant spectacle. Je sentais que j'avais les yeux énormes et la figure d'un blanc de cire. Je devais plutôt avoir l'air d'un spectre. Mais on me prit pour le dieu en personne. La musique s'arrêta et les femmes restèrent muettes. Moi, je me contorsionnais les jambes comme un berger sur une potiche de porcelaine. Et je fis avec mes pieds le dandinement du fantôme, comme je l'avais fait maintes fois au théâtre du régiment. Et je traversais ainsi le temps par devant les déesses, tout en rossignolant sur ma bouteille à bière. « Et qu'est-ce que tu rossignolais ?» demanda Orthéris. « Moi, oh, oh !» Mulvaney se leva d'un bond, et je voyant l'action à la parole, dans le crépuscule, pavana gravement devant nous sa divinité délabrée. Et il reprit. « Je chantais. Vous n'avez qu'à parler, vous serez Madame Brulagam. Ne dites pas non, charmante Julie Callaghan. » Je ne reconnaissais pas ma voix en chantant. En vrai, c'était pitié de voir les femmes. Ces pauvres chéries étaient le visage contre terre. En passant devant la dernière, je la vis crisper ses pauvres petits doigts les uns sur les autres, comme si elle voulait me toucher les pieds. Aussi, par grande faveur, je lui posais sur la tête le pan de mon pantalon paletot rose et m'éclipsais dans l'obscurité de l'autre côté du temple où je tombais dans les bras d'un gros prêtre rubaise. Je ne demandais qu'une chose, c'était de filer de là. Aussi je l'empoignais par son gras gros gosier et lui coupais la parole. La sortie, que je lui dis, par où, espèce de gros païen ? Oh, qu'il fit, vous n'êtes donc pas un dieu, mais un homme, que je dis, blanc soldat, vulgaire soldat, où est la porte de derrière ? Par ici, que dit mon gros copain, en se coulant derrière un énorme demi-taureau et plongeant dans un couloir. Alors je m'avisai que je devais avoir fait à ce temple de réputation minutieuse pour les 50 années à venir. Pas si vite, que je dis. Et en clignant de l'œil, je tendis mes deux mains. Le vieux brigand eut un souffle de père, un joli sourire. Je l'empoignai par la peau du cou dans le cas où il aurait eu envie de me planter un coup de couteau en sourdine, et pour lui permettre de rassembler ses esprits, je le fis galoper deux fois d'un bout à l'autre du couloir. « Tenez-vous tranquille !» qu'il dit en anglais. « Voilà que tu parles raisonnablement, que je lui dis. Qu'est-ce que tu vas me donner pour ce si élégant palanpin que je n'ai pas le temps d'emporter ?»« Oh, je sais pas !» qu'il dit. « Pas possible !» que je dis. « Voyons, tu peux bien me payer un billet de chemin de fer. Je suis loin de chez moi. » Je t'ai rendu service. Le gars, c'est un bon métier que d'être prêtre. Le vieux type n'a pas eu besoin d'aller chercher de l'argent à la banque. Et comme je vous le prouverai subséquemment, il farfouilla dans les plis de ses vêtements et s'est mis à me faire pleuvoir dans ma main des billets de 10 roupies, des mois d'or anciens, et des roupies tant et si bien qu'il ne pouvait plus les contenir. « Mais tu mens !» dit Orthéris. « Tu es fou, bien tu t'es attrapé un coup de soleil. Un indigène ne donne jamais d'argent monnayé, à moins qu'on ne lui arrache, c'est pas vrai. Alors mon mensonge et mon coup de soleil sont cachés sous cette Bottes de gazon là-bas, répliqua le Blenet, sans sourciller, avec un signe de tête vers la bousse. Va, Orsiris, mon fils, il y a plus de choses dans la nature que les petites jambes ne l'ont jamais permis d'en voir. 434 roupies, d'après mon calcul, et aussi un gros et gras collier d'or que je lui ai emprunté comme souvenir. Et il te l'a donné pour tes beaux yeux, dit Orsiris. Oui, nous étions seuls dans le couloir. Peut-être j'étais un peu rien trop pressant, mais considère ce que j'avais fait pour le bien du temple et la joie éternelle de ces femmes. C'était bon marché à ce compte-là. J'en avais trouvé davantage, je l'aurais pris. Mais je retournais le vieux dans tous les sens. Il était à sec. Alors il ouvrit une porte qui donnait sur un autre couloir, et je me trouvais barbotant jusqu'aux genoux dans l'eau du fleuve de Bénarès, et elle ne sent pas bon. À telles enseignes que j'avais débouché sur la berge du fleuve, tout près des bûchers funéraires, et tout contre un cadavre crépitant. Et c'était au cœur de la nuit, car j'étais resté 4 heures dans le temple. Il y avait là une foule de bateaux amarrés. J'en pris donc un et traversai le fleuve. Et puis, en me cachant pendant le jour, je suis revenu jusqu'ici. « Mais comment en diantre avez-vous fait ? » demandai-je. « Mais comment a fait Frédéric Roberts pour aller de Kambou à Canard ? » ?»« Il a marché. » Et il n'a jamais raconté à quel point il avait été près de succomber. C'est pourquoi il est ce qu'il est. Et maintenant, Melvalet eut un bâillement prodigieux. Maintenant, je vais aller me livrer pour absence illégale. Oh, de toute façon, ça ne fera que 28 jours. Et une rude attrapade du colonel dans la salle des rapports, mais c'est pas cher à ce prix-là. « Melvalet, ainsi dis-je, si vous avez par hasard une excuse quelconque que le colonel pourrait admettre plus ou moins, j'ai l'idée que cela se bornera aux chiffres en question. Les nouvelles recrues sont arrivées. Pas un mot de plus, monsieur. Ce sont des excuses que désire le vieux. Ça, non, c'est pas bon genre. Mais il les aura. » Et tout irait, il se mit en route vers la caserne, chantant à plein gosier. Il envoya donc 4 hommes et un caporal, et ils se mirent en prison pour conduite indigne d'un soldat. Là-dessus, il se rendit aux hommes de garde, qui pleurèrent presque de joie, et ses camarades lui firent une ovation. Quant au colonel, Melvalet lui raconta qu'ayant attrapé un coup de soleil, il était resté sans connaissance sur le lit d'un villageois durant un temps indéfini, et à force de rire et de bon vouloir, l'affaire fut étouffée, si bien qu'il lui fut possible, dès le lendemain, d'enseigner aux nouvelles recrues à craindre Dieu, honorer la reine, tirer juste et se tenir propre.